9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Jean-François Leroy.
Bonjour Jean-François Leroy.
Bonjour Philippe.
Vous êtes photographe, photojournaliste, vous êtes le directeur du prestigieux festival Visa pour l'image de Perpignan. Et je m'empresse de dire qu'au milieu de cette vague d'annulation, le festival est maintenu. Ce sera du 29 août jusqu'au 13 septembre, avec des rencontres, des colloques, des expos, même si le programme a été modifié, on va en reparler. Mais d'abord l'actualité immédiate. Avec un collectif du monde de la photo, vous avez signé une lettre ouverte au président de la République. Vous tirez la sonnette d'alarme sur les conséquences économiques et financières de la crise du Covid pour les photographes. Tout le monde, ou presque, pâtit de cette crise malheureusement. Pourquoi ce focus sur la profession de photographe? Qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Mais c'est-à-dire que personne ne s'en occupe. C'est-à-dire que les photographes sont de plus en plus indépendants, puisque les agences ferment les unes après les autres.
Ouais.
Les journaux produisent de moins en moins. Quand ils envoient qu'un photographe, maintenant c'est 3 jours et plus 15. Et donc il y a un nombre incalculable de photographes qui, depuis le début du confinement, n'ont pas sorti leur appareil parce qu'ils n'ont pas eu une commande, donc revenu zéro.
Mais les journaux ont continué de paraître?
Oui, les journaux continuent de paraître, mais si vous voulez, une fois que vous avez montré 3 malades, 3 infirmiers avec des masques et 3 enterrements, les photos, elles sont un peu redondantes, ils ont trouvé. Donc vous avez vu, la pagination s'est réduite drôlement.
Ça, c'est un bon argument, la pagination. Mais sinon, on peut faire des photos aussi intéressantes dans un hôpital que dans une manifestation, que sur un champ de course ou dans une mine comme Salgado.
Mais je suis d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que dans le programme de Visa dont on va parler tout à l'heure, moi, j'ai 2 expositions sur le Covid. Parce que...
J'ai cru que vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous trouviez que ce n'était pas intéressant de filmer ce qui se passe dans l'hôpital. Au contraire, c'est une matière humaine incroyable.
Je veux dire, oui, mais une fois que vous avez fait... Je sais pas, quand Match publie le reportage de Laurence Jay dans les TGV médicalisés pour... C'est magnifique ce travail, c'est indispensable, mais on ne peut pas le faire toutes les semaines, c'est ça que je voulais dire.
Compris, il y a des noms prestigieux parmi les signataires, il y a Nathurs Bertrand, Raymond Depardon, François Huguier, Bernard Plessus, Patrick Zachman, pardon, évidemment l'immense icône Sébastien Salgado, le photographe brésilien. Votre article débute ainsi. Monsieur le Président de la République, chevaucher le tigre, virgule, quelle magnifique expression. Alors oui, c'est une belle expression, mais ça veut dire quoi et qui est ce tigre?
Ben oui, on ne sait pas, moi je ne sais pas, c'est pour ça qu'on a fait cette tribune. Parce que, en fait, il n'a rien annoncé pour les photographes. Donc, si vous voulez, on annonce...
Et c'était tout le 6 mai dernier. Le président Macron, pardon de vous interrompre, a fait des annonces en faveur de la culture. La photographie n'est pas incluse dans la culture?
Il a prononcé le mot, je crois, 2 fois. Et le mot... Vous savez très bien, Philippe, que aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour un photographe d'avoir la carte de presse, qu'on les paye de plus en plus en auto-entrepreneur ou on refuse de les payer en salaire. Donc, si vous n'avez pas 51% de vos revenus qui viennent d'un organe de presse avec un numéro de commission paritaire, vous n'avez pas votre carte de presse.
Ouais.
Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, je vous dis, de nombreux photographes qui sont dans des situations désespérées, en France et à l'étranger.
Vous écrivez, les mesures proposées par le gouvernement ne répondent pas aujourd'hui aux besoins des photographes. Qu'est-ce que les photographes ont comme besoin spécifique, à part de travailler pour manger?
Travailler pour manger et peut-être avoir une accessibilité à une retraite, parce que là, aujourd'hui, quand vous êtes en auto-entreprise, que vous êtes payé des misères et que vous payez les charges, l'URSSAF, la TVA, etc., etc., vous n'avez pas de quoi vous faire une capitalisation. Donc les photographes sont... Moi, je connais des gens, et je répète, en France ou à l'étranger, qui vivent dans une extrême précarité.
Et des gens qui autrefois avaient pignon sur rue ou des petits jeunes qui démarrent?
Les deux. Les deux, malheureusement, si vous voulez, il y a des photographes confirmés. J'ai eu un très grand photographe au téléphone l'autre jour, Paolo Pellegrini, qui me dit qu'il n'est pas sorti de chez lui depuis 3 mois. Ouais. Il n'a pas eu une commande et c'est dramatique pour lui.
Je vous cite encore, il faut que les entreprises...
C'est pas moi qui ai écrit le texte, hein.
Oui, mais vous l'avez co-signé, évidemment. Oui, oui. Il faut que les entreprises et les particuliers retrouvent l'envie et la volonté d'investir dans la photographie française. Comment ça, investir? On est particulier, on va investir dans la photo?
Je ne sais pas, il y a des exemples historiques assez formidables. Quand les États-Unis, le secrétariat d'État à l'agriculture commande aux 10 plus grands photographes américains un état sur la condition des agriculteurs dans les années 20, ça donne la FSA, qui est un fonds d'archives absolument fabuleux. Pourquoi ne pas envisager? Il y a eu pendant des années une politique de commande au ministère de la Culture qui a malheureusement un peu disparu. C'est dommage.
Et alors vous demandez une diffusion privilégiée des images des photographes exerçant en France. Et là, ça m'a vraiment étonné. Parce que les métiers de photographe, c'est justement des gens qui allaient vers l'extérieur, qui voulaient que les frontières soient abolies. Et même votre festival s'appelle Visa.
Oui, non mais si vous voulez, bon, c'est vrai que ce passage, il est un peu...
On a le droit de ne pas totalement cautionner non plus une tribune qu'on a signée.
Complètement.
Là, c'est votre cas en l'occurrence.
Sur les photographes qui doivent travailler, enfin, oui, je trouve que c'est. Moi, vous savez, j'aime pas les catégories, les mettre des étiquettes sur tout le monde, donc photographe français, femme, de la diversité, etc., etc. Pour moi, il y a un seul critère, c'est le talent du photographe.
On aurait pu vous recevoir il y a 6 mois. Pour parler du métier de photographe, dont on dit, ça fait des années qu'on dit que le métier est sinistré pour plusieurs raisons, malheureusement. D'abord parce que la télé a tué en quelque sorte le grand reportage à l'étranger. Plein de photographes vous disent, malheureusement, moi je prends des risques, je vais en Syrie ou en Irak, et ce qui marche, c'est les photos de people qu'on fait en bas de la rue en prenant rendez-vous. Et aussi parce qu'avec un smartphone, chacun peut faire des photos. Je vais volontairement vous poser une question iconoclaste. Est-ce que le métier de photographe est appelé sinon à mourir, du moins à décliner comme vendeur de charbon dans les années 50 ou vendeur de vinyle?
Non, moi, je ne crois pas du tout.
Expliquez
d'ailleurs, regardez,
pourquoi
le vinyle remonte. Hein,
il remonte, mais il ne fait pas du tout les scores qu'il faisait autrefois.
Si vous voulez.
Il remonte à la marge. Il double, mais il est passé de 1 à 2%.
Non,
mais
non.
Il reste à 2%.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que là, on est au creux de la vague, mais que les amateurs qui font des photos avec leur smartphone, c'est toujours des photos accidentelles.
Ouais.
C'est jamais. Alors que le photojournaliste, il prépare son sujet. Il prend des contacts, il a des fixeurs, il a des interprètes. Il raconte une histoire avec un début, un milieu, une fin. Je veux dire. Et c'est ça qui fait sa force. C'est, je veux dire, on a tous un stylo, on n'est pas Shakespeare pour autant.
D'accord. Hein. Et vous avez même 2 portables dans la poche. Je ne m'attendais pas à ce que Jean-François Leroy, le héros de la photographie...
Mais c'est pour téléphoner, c'est pas pour faire des photos.
Et 2 téléphones. Vous restez avec nous parce qu'on va parler aussi de visa pour l'image
avec
à Perpignan
plaisir.
Et qui va se dérouler. Et ça, c'est une bonne nouvelle de l'après-confinement.
Oui, une 32e édition du visa pour l'image qui s'adapte au Covid et qui aura bien lieu du 29 août au 13 septembre à Perpignan. On en parle avec Jean-François Leroy, le directeur du festival, dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Jean-François Leroy, le directeur du festival Visa pour l'image, qui est notre invité ce matin, Philippe.
Visa pour l'image, donc vous avez réussi à sauver ce festival qui n'a pas été annulé, contrairement à beaucoup d'autres, hélas. Ce sera donc à Perpignan à partir du 29 août. Ça va durer jusqu'au 13 septembre, mais il y aura également des expos qui vont perdurer jusqu'au week-end du 26-27 septembre. Qu'est-ce qu'on va voir et d'abord dans quelles conditions?
Bah écoutez, les conditions, vous savez, on marche un peu à l'aveugle. Hein. On a supprimé les soirées parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir réunir 2500 ou 2600 personnes dans un amphithéâtre, enfin dans un cloître. Donc on a décidé de supprimer ces soirées. Mais on a décidé de maintenir une 20aine d'expositions dans 3 lieux, des lieux qui nous permettent de faire un sens de circulation pour éviter de se croiser. Et puis on va voir comment ça évolue, est-ce qu'il faudra que les gens aient des masques, est-ce qu'il faudra tenir 1 mètre de distance entre tout le monde ou pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que Visa pour l'image existe à Perpignan physiquement.
Est-ce qu'il y a des lignes directrices pour un festival comme le vôtre, ou est-ce que vous choisissez les 20 photographes, les 20 expos qui vous séduisent le plus au moment où vous faites la sélection?
Non, c'est vraiment au moment de la sélection. C'est-à-dire que il faut que le sujet soit original, il faut que le sujet soit évidemment bien traité, il faut que le sujet m'apporte une information, qu'elle soit gaie, triste, qu'elle m'émeuve, qu'elle me fasse pleurer, qu'elle me fasse sourire. Et c'est vrai que cette année, on a beaucoup, beaucoup d'expositions sur le développement durable et la pollution, etc., etc. Parce que quand on a commencé à travailler sur le programme, on ne savait pas si on pourrait avoir lieu. Donc on avait misé sur des expositions un peu sans date,
ouais,
qu'on pourrait utiliser l'année prochaine. Heureusement, grâce à Dieu, on peut les utiliser cette année.
Puisqu'on parle d'environnement, j'ai été frappé par le travail de James Whitlow Delano sur le plastique raconté. Je vais dire ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'on est habitué à voir le continent de plastique sur l'océan, on a vu cette image, ou les déchets au pied de l'Everest, mais lui-même, il fait pas un pas de côté, il fait 10 km de côté, puisqu'il photographie son supermarché à Tokyo.
Oui, pour montrer le suremballage, etc.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il fait un constat impitoyable. Bon, donc là, on parle beaucoup avec le Covid, on parle beaucoup de l'action des lobbies plastiques qui essayent de se recaser pour remonter le truc. Mais quand on voit le travail de James Whitlow Delano, on n'a plus du tout envie de consommer du plastique parce que c'est une saloperie qui pollue tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo de l'entrée de la mine au Pérou.
Oui.
Où ce mineur, on se croirait dans une décharge municipale, quoi.
Ouais.
Et en fait, on est à je ne sais pas combien de mètres d'altitude, à l'entrée d'une mine d'or, et il y a du plastique partout, partout, partout. Et c'est vrai, ben là j'ai vu l'autre jour que des scientifiques avaient découvert que dans le parc de Yellowstone.
Je l'ai vu il y a deux jours. C'est complètement dingue. Voilà. Dans la pluie, il y a du plastique.
Il y a du plastique.
Alors que théoriquement, tout ceci est très, très, très préservé.
Et que toutes les surfaces du parc de Yellowstone sont polluées au plastique, alors que c'est un parc hyper protégé. Donc, ça pose vraiment des problèmes. On disait dans le reportage dont vous parlez que chaque être humain avale 5 grammes de plastique par semaine.
Mon Dieu.
Ouais. Je ne sais plus si c'est par semaine. Enfin, c'était un chiffre absolument colossal.
Alors, s'il fallait dégager des tendances, il y aurait l'environnement. Ouais. Il y a également le travail des femmes. Il y a Nicole Tung, que je ne connaissais pas, qui a photographié les contestataires à Hong Kong.
Oui, alors Nicole, c'est une photographe qui est née à Hong Kong, ouais. qui vit à Istanbul. Et donc, dans tout ce que j'ai vu sur les émeutes à Hong Kong, c'est la fille qui a le plus... qui est le plus rentré dedans, qui est le mieux rentré dedans.
Elle a reçu une bourse, j'ai appris, pour les femmes photojournalistes, bourse du ministère de la Culture. C'est une bourse interdite aux hommes. Même dans la photo, il y a la discrimination positive.
Oui. Positive.
Pourquoi ce choix ?
Écoutez, c'est une idée du ministère de la Culture à laquelle on a adhéré. Vous savez, Visa pour l'image, on a été les premiers à créer il y a 20 ans le prix de la femme journaliste.
Ouais.
Parce qu'il y a les prix pour les jeunes, il y a les prix pour les vieux, il y a les prix pour la guerre, il y a les prix... Mais il n'y avait pas de prix dédié pour les femmes.
Pourquoi un prix pour les femmes ? Elles sont moins bonnes photographes que les hommes ?
Non, je n'ai pas dit ça. Mais si vous voulez, elles partent souvent avec un handicap parce que, alors elles ont des avantages sur certains sujets. Stéphanie Sinclair, quand elle travaille sur le mariage des petites filles, un homme ne pourrait pas faire les photos qu'elle fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un peu une provocation. On a dit qu'il y a des prix pour les jeunes, pour les vieux, pour tout le monde. Bon, on va faire un prix pour les femmes, ça fait 20 ans. Et il y a des femmes qui ne veulent pas y participer parce qu'elles veulent être reconnues que comme photographe et pas comme femme photographe.
On peut également les comprendre. Autre actualité, je ne m'attendais pas à parler de ça maintenant dans Culture Média, les élections municipales. Pourquoi j'en parle ? Parce que Perpignan a de grandes chances de devenir la plus grande ville de France administrée par un élu d'extrême droite. Le grand favori du deuxième tour, c'est Louis Alliot, du Rassemblement National. Comment va se passer la cohabitation entre vous s'il est élu ?
Bah écoutez, j'espère que... Moi, je pense que la liberté ne se repense pas. La liberté... moi, j'ai eu la chance de travailler avec 3 maires successifs à Perpignan jusqu'à aujourd'hui. Et aucun de ces maires n'est jamais intervenu dans ma programmation. J'ai jamais eu la moindre censure, etc. Donc,
et vous attendez une censure ?
Non, j'ai pas dit ça. Mais je veux dire, j'y serais très, très, très attentif. Quoi.
Vous l'avez déjà rencontré, Louis Alliot ?
Bah forcément. Je veux dire, il est député européen... Et quand il vient aux inaugurations, je salue en tant que...
Parce que vous avez dit dans une interview que vous comptiez, je vous cite, résister de l'intérieur.
Oui.
Résister à quoi ?
Ben, résister, c'est-à-dire que je trouve que c'est trop facile de dire « Ah, le Front National arrive à Perpignan, donc je m'en vais ». Je trouve qu'il faut au contraire montrer des sujets qui peuvent réveiller les gens, qui peuvent leur faire prendre conscience de peut-être... Peut-être, parce qu'on n'est pas dimanche soir, de la bêtise qu'ils ont faite.
On verra. On n'est pas dimanche soir. Merci beaucoup, Jean-François Leroy. Je rappelle, Festival Visa pour l'image, ce sera à Perpignan. Ce sera à partir du 29 août jusqu'au 13 septembre. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Culture Média qui continue. Dans quelques instants, il y aura le journal de la culture avec comme invité le président de la Nuit des Molières, Jean-Marc Dumonté en personne. C'est ce soir, la Nuit des Molières sur France 2, pas à 23h au milieu de la nuit, mais en prime time, ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. Il y aura le portrait inattendu de Dumonté par Hélène Manarino. Dans les indispensables, les cinémas à nouveau ouverts. Mais qu'est-ce qu'on peut y voir 40 films à l'affiche, comment faire le tri entre les sorties, les ressorties, les nouveautés. Mathieu Charrier fait le tri. Puis un jeu vidéo dont tout le monde parle, je veux dire toute la planète, The Last of Us, c'est la partie 2. Clément Le Saff y a joué et il a succombé. Mais d'abord, le journal de la culture, juste après ça.